Merci de nous rejoindre sur Radio Orient. Il est tout juste midi. Le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, la situation s'améliore sur le front des incendies en Gironde. Les premiers retours s'organisent alors que l'autoroute A63 s'apprête à rouvrir en début d'après-midi. Plus de 80 000 personnes sont autorisées à rentrer chez elles. La calmie a été de courte durée entre Iraniens et Américains. Les États-Unis ont mené plusieurs frappes cette nuit sur le front diplomatique. Le Pakistan, médiateur au sein du conflit, annonce que les négociations continuent en vue d'une désescalade. Et puis l'ONU alerte sur la situation qui se dégrade en Cisjordanie. La violence des colons et les annexions territoriales ne font qu'empirer, assure l'Organisation des Nations Unies. Bonjour, une amélioration sur le front des incendies, mais une situation qui reste fragile en France et dans plusieurs pays du sud de l'Europe. En Gironde, le méga-feu est toujours stabilisé. Les premiers retours massifs d'habitants ont été autorisés. Dans le Var et près de Dijon, les pompiers restent également fortement mobilisés. Le point sur la situation avec vous, Clara Dubanché.
En Gironde, d'abord, la nuit a été plutôt calme. Le méga-feu reste stabilisé et la surface brûlée demeure inchangée. 42 000 hectares, 6 foyers sont toutefois encore actifs. La météo devrait faciliter le travail des secours avec une baisse des températures et quelques averses possibles sur le littoral. Les pompiers s'attaquent désormais aux lisières et aux derniers foyers, un travail qui pourrait encore prendre plusieurs jours avant que l'incendie ne soit définitivement fixé. Mais l'amélioration permet déjà les premiers retours. Sur les plus de 200 000 personnes évacuées, 84 000 ont été autorisées à regagner immédiatement leur domicile. L'autoroute A63 doit également réouvrir à partir de 14h. Dans le Var, le feu de Brignoles est désormais maîtrisé après avoir parcouru 130 hectares et provoqué l'évacuation de 650 personnes. 4 pompiers ont été blessés et 270 restent mobilisés avec un risque de reprise alimenté par la chaleur et le vent. Près de Dijon, enfin, l'incendie de Couchet est contenu mais pas encore fixé. Il a parcouru 141 hectares, dont 80 ont brûlé. 2 pompiers ont été légèrement blessés, mais aucune habitation n'a été touchée.
Merci Sarah pour ces précisions. Et lors d'un point de presse qui vient de se terminer il y a quelques instants, le ministre de l'Intérieur a rappelé que le risque reste extrêmement important. Laurent Nunez a souligné que la vigilance reste de mise. On l'écoute.
On a fait un point de situation ce matin, point de situation qui nous conduit donc à considérer qu'on a une amélioration météo, mais on va dire assez légère, avec une remontée de l'humidité, des taux d'humidité, un peu moins de vent. Mais le constat, c'est quand même que le risque reste extrêmement important, puisqu'on est dans une situation de sécheresse forte, donc avec toujours une végétation évidemment abondante. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a encore enregistré hier sur le territoire national, il y a eu 26 feux donc, qui ont été traités, et des feux qui partent très vite et très fort. Donc malgré cette amélioration météo, on reste évidemment extrêmement vigilant et on considère que la situation est toujours assez compliquée. D'ailleurs, aujourd'hui, sur la carte du risque incendie, même si sur le sud-ouest, il y a une amélioration dont a parlé Madame la préfète de zone, comme elle l'a dit à juste titre, une légère amélioration ne veut pas dire qu'on baisse la garde loin de là. Et sur la carte des feux de forêt, on a toujours des risques importants dans le sud-est de la France, sur la vallée du Rhône, de manière inhabituelle maintenant, mais tout le nord-est et l'ouest.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la France est loin d'être la seule confrontée aux flammes. L'Espagne, la Grèce et la Turquie restent, elles aussi, sous très haute surveillance entre chaleur extrême et vent violent. Clara Dubanché.
Oui, en Espagne, le feu qui a ravagé plus de 25 000 hectares dans la région de Madrid est désormais clairement stabilisé, même si un millier de personnes restent évacuées. Un nouveau front s'est ouvert, par contre, à Fermoselle, près du Portugal. Plus de 600 personnes ont dû quitter 11 localités et l'armée a été déployée. L'incendie d'Avila reste, lui, actif après avoir ravagé environ 50 000 hectares. Situation particulièrement difficile en Grèce. En Crète, quelques 8 000 personnes ont été évacuées face à un incendie attisé par des rafales pouvant atteindre 120 km à l'heure. 2 pompiers ont péri sur l'île et un troisième dans le Péloponnèse. Plusieurs régions grecques sont désormais placées en code rouge. Enfin, en Turquie, les principaux incendies, notamment autour d'Antalya et sur la côte méditerranéenne sont en grande partie sous contrôle. Sur 115 feux recensés à travers le pays, 110 ont été maîtrisés, selon le ministre turc de l'Agriculture.
Merci Clara pour ce point situation sur la situation en Europe. À Gaza, l'armée israélienne affirme avoir frappé une mosquée à Gazaville, utilisée selon elle comme site de stockage d'armes du Hamas. La population avait été prévenue et évacuée avant la frappe. Les autorités religieuses à Gaza dénoncent de faux prétextes. Et puis en Cisjordanie occupée, la situation continue de se dégrader. 2 ans après l'avis de la Cour internationale de justice déclarant illégale l'occupation israélienne des territoires palestiniens, l'ONU alerte sur une violence des colons et une annexion territoriale qui ne font qu'empirer. 8 Palestiniens et 2 militaires israéliens ont été tués depuis jeudi dernier. Les précisions avec vous, Salma Darlaoui.
Oui, Nadia. En Cisjordanie, l'ONU s'alarme d'une violence qui atteint des niveaux sans précédent. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme dénonce la multiplication des attaques de colons israéliens, mais aussi la création de colonies et d'avant-postes. Depuis jeudi dernier, 8 Palestiniens et 2 militaires israéliens ont été tués. Vendredi, des affrontements entre colons israéliens et palestiniens dans le village de Tel ont fait 6 morts, 4 Palestiniens et 2 Israéliens. L'armée israélienne a ensuite lancé un raid à Naplouse et dans plusieurs localités voisines, annonçant l'arrestation de dizaines de Palestiniens dans le cadre de ce qu'elle a qualifié d'une opération antiterroriste. Selon l'ONU, des communautés palestiniennes ont également été attaquées, des biens détruits ou confisqués et des mosquées incendiées. Les restrictions de circulation se sont encore durcies, limitant l'accès aux services essentiels. La violence s'est fortement intensifiée en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza. Au moins 1097 Palestiniens ont été tués par les forces ou les colons israéliens depuis le 7 octobre 2023, selon des chiffres palestiniens. L'ONU appelle désormais les États tiers à agir de toute urgence pour mettre fin aux violences, aux expulsions et à l'occupation israélienne.
Merci Selma pour ces précisions. Le calme a été de courte durée entre les États-Unis et l'Iran. Les échanges de frappes ont repris entre les deux pays, des bombardements de Washington justifiés comme la réponse à la tentative iranienne d'attaque surprise contre les forces américaines il y a 2 jours. Le Pakistan médiateur au sein du conflit affirme que les négociations continuent en vue d'une désescalade. Vos précisions, Clara Dubanchet.
Nous allons les frapper fort parce que c'est à notre tour. Voici les mots du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche hier. Nous, ce sont les États-Unis, ils, ce sont les Iraniens. Et pour cause, les bombardements américains ont fait 3 morts civiles cette nuit dans le sud du pays, selon l'agence iranienne Fars. Parallèlement, le Koweït, allié régional des États-Unis, annonce un mort dans une frappe iranienne. Alors, lorsque le Pakistan certifie, après de nouvelles séries de bombardements, que les négociations américano-iraniennes sont en cours sur la désescalade et le détroit d'Ormuz, cela semble invraisemblable. Car depuis début juillet, moment où l'accord de cessez-le-feu a volé en éclats entre l'Iran et les États-Unis, la diplomatie pakistanaise affirme s'efforcer à trouver un accord de paix entre les différentes parties. Sauf que depuis presque un mois, il ne s'agit plus que des 2 belligérants. Pour rappel, avant les dernières frappes, le conflit entre les 2 pays s'était étendu aux rebelles houthis du Yémen et à l'Irak, tous les 2 alliés de l'Iran, mais aussi à l'Arabie saoudite. Et justement, un chercheur saoudien, spécialiste des questions de sécurité, décrit une nouvelle phase dans ce conflit. C'est ce qu'il appelle la guerre par procuration, la poursuite de la guerre directe par d'autres moyens, en mobilisant d'autres États comme intermédiaires, c'est-à-dire continuer à étendre la zone de conflit.
Merci Clara pour ces précisions. À rappeler qu'en Égypte, l'incendie qui a touché mercredi 2 navires de stockage de gaz dans le port de Damiette est dû à une attaque de drones. C'est ce qu'affirme le gouvernement. Il s'agit de la première du genre depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Aucune partie n'a revendiqué cette attaque et les autorités ne désignent à ce stade aucun responsable. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'incident. À l'occasion du 27e anniversaire de son accession au trône, le roi Mohamed VI a dressé le bilan des transformations du Maroc, plaçant la stabilité politique et institutionnelle au cœur du développement du royaume. Dans son discours adressé à la nation, le souverain a mis en avant une croissance de 4,9% en 2025 et l'essor industriel, notamment dans l'automobile et l'aéronautique, qui représentent désormais plus de 40% des exportations marocaines. Il a également insisté sur la souveraineté économique, énergétique et alimentaire, ainsi que sur la nécessité de faciliter davantage le financement des PME, de l'innovation et de l'investissement. Enfin, à l'approche des prochaines législatives, Mohamed VI a appelé à ouvrir un nouveau cycle de développement fondé sur la préservation des acquis et la poursuite des grandes réformes. Dans le reste de l'actualité, au Pakistan, 9 policiers ont été tués et 26 autres blessés dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le nord du pays. Les forces de l'ordre affirment avoir abattu 15 assaillants. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste Tehrik-i-Taliban Pakistan. Dans la guerre en Ukraine, nouvelle nuit de frappes massives. Selon Kiev, la Russie a lancé 74 missiles et 284 drones, faisant au moins 8 morts, dont 6 membres d'une même famille. Volodymyr Zelensky dénonce la terreur russe et réclame à nouveau à ses alliés des systèmes de défense antimissiles. Et puis enfin, au Japon, le bilan du puissant séisme de mardi atteint désormais 34 morts, tandis que des milliers de rescapés affrontent une chaleur accablante. Plus de 22 000 foyers restent privés d'électricité et quelque 84 000 subissent des coupures d'eau, alors que les températures pourrait atteindre 38 degrés ce week-end. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à Mohamed El-Bizeri pour la réalisation. Je vous retrouve à 13h pour le point de l'actualité. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.